Bonjour à tous. Vous avez peut-être été surpris par la lecture du choix des versets. Donc, non pas tellement par la lecture, mais surtout par le choix des versets. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ces trois versets? Parce qu'il est question du culte dans les deux derniers. Et dans le premier verset, il nous est rappelé que personne ne se présentera et n'invite devant l'Éternel. Tout cela pour parler d'un sujet très important. Nous sommes dans un livre qui s'appelle le but principal du culte. Pourquoi est-ce que nous nous réunissons tous les dimanches pour ce qu'on appelle un culte communautaire? Alors j'ai relevé certaines raisons qui poussent les uns et les autres à aller au culte. Certains disent c'est une habitude. Je parle des chrétiens. C'est une habitude. Le culte fait partie de ces habitudes de vie que l'on ne discute pas et qu'on ne remet pas sans cesse en cause. Mes parents, quelqu'un va bien ajouter cette phrase, mes parents me l'ont inculqué. Donc, aller au culte a été inculqué, c'est une sorte d'habitude. D'autres vont dire c'est pour renouveler et renforcer ma communion avec Dieu. Par exemple, je cite, je vais au culte pour me nourrir spirituellement, pour m'édifier, pour purifier ma conscience en confessant mes péchés. Un autre m'a dit, je vais au culte pour me faire du bien et rassembler de nouvelles forces pour la semaine. C'est vrai que ce sont là des motifs louables. Néanmoins, ce n'est pas là le but principal du culte. D'autres ont pu dire c'est pour entendre Dieu le parler. Alors, c'est vrai que dans l'église apostolique, ou dans la métropole de Sainte-Côte, par exemple, la plupart des chrétiens n'entendaient la parole de Dieu qu'à l'occasion du culte. Il y a quand même dans l'église apostolique, et donc il se réunissait, et la lecture était faite, et ça me dit que. C'est pour ça que Paul dit à Timothée dans la première Timothée, chapitre 4:13, applique-toi à la lecture. Alors, dans le contexte général, c'est pas simplement une lecture personnelle, un culte privé entre Dieu et Timothée, mais c'est aussi dans le cadre communautaire, la lecture publique devant les chrétiens, et l'écriture comme cela se faisait, en Israël, dans l'Ancien Testament, au moment des heures et des heures, à certaines grandes occasions, eh bien, toute la loi de Moïse est lue et expliquée. Aujourd'hui, c'est vrai que on peut lire la Bible chez soi et rentrer donc dans cette communion avec Dieu, recevoir de Dieu à l'occasion d'un culte personnel, les révélations bibliques dans le sens habituel du terme, c'est-à-dire conforme aux Saintes Écritures. Néanmoins, il est vrai qu'aujourd'hui, pendant le culte en commun, par l'explication de la parole, pendant la prédication, par des citations spontanées de l'Écriture, dans ces cas, dans certaines églises, eh bien, il y a des exhortations qui sont reçues par les uns et par les autres. Dieu nous parle de manière directe. Cependant, ce n'est toujours pas là, lui, on n'est pas du tout. Quelqu'un d'autre disait, je vais au culte pour être transformé. Alors, c'est vrai que toute contemplation a une influence pour nous. N'est-ce pas dans l'Ancien Testament, dans le livre des rois, puis aussi dans le livre des psaumes, puis aussi dans le livre des grands prophètes, comme Isaïe, et des petits prophètes, on voit la dénonciation par le Seigneur d'un effet négatif de la contemplation. Par exemple, quand il dit dans le psaume 115, verset 8, au sujet de ceux qui fabriquent les idoles en bois, il leur dit, ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent. Intérieurement, croire dans un Dieu mort, dans une idole, un morceau de bois ou de pierre, ça soit de la légèrement dévoçante. Et puis, en 2 Rois, chapitre 17, verset 15, les individus nous disent, ils allèrent après des choses de néant, c'est-à-dire des idoles, autres que l'Éternel notre Dieu, c'est le seul vrai Dieu, ils allèrent auprès des choses de néant, et ne furent eux-mêmes que néant. la contemplation qu'on peut avoir de certaines idoles amène ou la vie. Si c'est la contemplation de Dieu, du Dieu vivant et vrai, ou alors c'est le mur. Et puis, comme je le disais, il y a un effet positif, et c'est à Paul, en 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, qui nous dit, nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Le miroir en question, c'est selon les interprétations, c'est ou les Saintes Écritures, c'est-à-dire en lisant les Saintes Écritures, on est transformé parce qu'on voit comme dans la mémoire la gloire de celui qui nous rencontre dans la gloire, et nous verrons face à face. Ou ça peut aussi être la communauté des chrétiens. C'est-à-dire quand on se regarde les uns les autres, on est transformé parce qu'on voit Christ dans sa sœur, dans son frère, et cela évidemment nous enrichit, nous fait énormément de bien, et transforme en quelque sorte la communauté. Je souhaite qu'il en soit ainsi parmi les églises que nous présentons. C'est une gloire, donc, que nous sommes appelés à interpréter, et une gloire croissante, car nous sommes transformés de gloire en gloire. Et c'est pour ça que dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, verset 18, il dit « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant du jour au milieu. » Alors, c'est formidable ce que Dieu peut faire au travers de chacun d'entre nous, en tant que communauté, mais aussi en tant que chrétien, là où nous sommes appelés à vivre, c'est que les autres nous regardent et ils voient des choses qui sont invisibles quelque part, sauf à ceux qui cherchent la vérité, à ceux qui s'intéressent au Seigneur. Quand ils regardent un chrétien, ils se rendent compte que des choses sont différentes. Il émane de nous la bonne odeur de Jésus-Christ. Dans son épître. Un commentateur a écrit la chose suivante, ce qui importe, ce n'est pas que le culte fasse que nous nous sentions bien ou heureux. Ce qui importe, c'est qu'il nous rende semblable à Christ, que les hommes prennent conscience que nous avons été avec Jésus. Alors que ça soulève comme question, est-ce que nos cultes, et je ne parle pas simplement de notre église, mais c'est pas possible. Est-ce que nos cultes nous transforment quand nous sortons du culte, d'avoir participé à un culte? Est-ce que nous sommes transformés au point que ceux de l'extérieur ou d'autres chrétiens qui n'étaient pas avec nous, qui nous ont dit là, il y a quelque chose qui s'est passé ce matin, qui est sorti de quelque chose, et qui m'a dit quoi? Cependant, le fait d'être rendu semblable à Christ, c'est pas le but principal du culte. Alors, d'autres ont dit que c'est pour jouir de la communion fraternelle. Très souvent, on entend je vis seul toute la semaine, au milieu des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui me rendent la vie difficile à cause de leur foi. C'est vrai que le culte est à ce moment-là une source de bénédiction précieuse pour ceux qui sont seuls dans leur travail, dans leur quotidien, qui sont moqués, qui sont incompris, qui sont pas rejetés. Eh bien, c'est vrai que retrouver en communion avec les soeurs et les frères, en présence de notre Seigneur, c'est quelque chose de bien faisant et qui est capable de ressourcer une personne pour nous. Mais, ce n'est toujours pas là, vu qu'on n'a pas vu. Quelqu'un disait, c'est pour prier ensemble. Le Seigneur nous a en effet laissé une promesse merveilleuse au sujet de la prière en commun, puisqu'il dit dans son évangile selon Matthieu, chapitre 18, verset 19, si deux d'entre vous s'accordent pour me demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc, prier ensemble, nous savons par expérience, est l'une des composantes principales du culte. Mais c'est toujours pas le but principal. C'est une composante. Et le fait de prier dans les réunions de prière, d'être unis pour intercéder, c'est évidemment quelque chose de primordial dans notre vie, dans son Dieu. Alors quelqu'un d'autre disait aussi, c'est pour rechercher la présence du Seigneur. Cette présence, évidemment, elle nous est assurée. on a vu Jésus, verset 1, le verset suivant, pour celui qu'on citait, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis Dieu. Et le Seigneur nous a confirmé d'une autre façon, on a vu chapitre 8, verset 1. Et voici, dit-il à ses disciples, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce qui est une réalité pour chacun d'entre nous qui sommes nés pour nous. C'est une des plus grandes bénédictions de rencontrer le Seigneur et le Dieu. Mais ce n'est toujours pas là le but principal du but, selon les Saint-Esprit. Alors, quel est ce but dans le monde? Le but principal, c'est que mon désir d'être culte devrait avoir comme motivation celle qui découle du sens même du culte. Un culte, c'est qu'on adore. Rendre un culte, c'est adorer. Le but principal du culte dans les Saintes Écritures, eh bien, c'est que nous allons culte pour adorer Dieu. Ça, c'est la priorité, c'est le but principal d'un culte dans les Saintes Écritures, qu'on se rend ensemble dans un bâtiment comme celui-ci, pour adorer Dieu. Alors évidemment, adorer Dieu, c'est un ensemble de choses assez importantes. Nous n'allons pas au culte pour chercher quelque chose. Vous savez, il y a une espèce de dérive, on va dire, dans la société moderne, depuis pas mal de décennies, c'est que les chrétiens du passé, d'un passé pas très lointain, il y a une cinquantaine d'années, 60 ans en arrière, les chrétiens allaient au culte pour adorer. Et la préoccupation. D'ailleurs, c'était pas très compliqué. Quand on arrivait dans un lieu de culte, dans une église, il y avait un silence. Les chrétiens avaient leur vie, tous les chrétiens avaient leur vie ouverte, ils leur disaient la vie, du culte. Les chrétiens savaient qu'ils étaient là pour Dieu. Et puis, petit à petit, je les appelais en ces temps, je les dans ma semaine, ce sont celles qui faisaient une certaine année, une soixantaine d'années, là. Petit à petit, j'ai vu les comportements changer. Et que, alors, c'était très sympathique. On arrivait, on se saluait les uns les autres, chaque jour. Mais on trouvait de moins en moins de chrétiens avec la douleur de se préparer contre le plus grand nombre pour rencontrer Dieu. Donc, il faut faire attention parce que ce qui est important, c'est ce que Dieu nous dit dans sa parole concernant le but principal des choses. La raison même de ce qu'il nous enseigne. C'est pas tellement de suivre le courant de pensée et pratique actuelle. C'est de revenir en permanence à l'écriture sainte, pour avoir les idées bien claires, et pouvoir rendre un culte à Dieu. Tel que il nous le demande. Nous n'allons donc pas au culte pour chercher quelque chose, mais pour apporter à Dieu l'hommage qui lui est dû. C'est pour ça qu'on vient au culte. Vous savez, moi, je n'habite pas à côté de l'église, je dirais, évidemment, en permanence, je suis plus détaché pour vous. Mais à chaque fois que je viens ici, je fais quand même une dizaine d'églises, moi, je viens toujours. À chaque fois que je viens ici au milieu de vous, mais quand je vais matin, ce matin, les autres personnes, j'y vais, en étant conscient, je vais je ne vais pas simplement pour rencontrer des frères et des sœurs ou pour partager la parole. Il y a beaucoup d'entre nous pour le faire à la place, mais l'essentiel, le but principal du culte, c'est qu'on vient pour Dieu. Et ensuite, évidemment, on va réclamer les frères et les sœurs, c'est évident. Mais vous savez, il y a une hiérarchie dans la conception du jeu. Il y a une hiérarchie dans la salle de. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont égaux, mais en même temps, dans les débuts de l'Ancien Testament, Jésus remettra à son Père le royaume. Donc, on voit bien qu'il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie dans tous les aspects des Saintes Écritures. C'est-à-dire qu'il faut avoir une compréhension des Écritures saintes selon la façon dont Dieu nous a communiqué. Pour qu'on mette bien les choses à leur priorité. Il y a une hiérarchie dans la famille. Il y a une hiérarchie dans le couple, même si il y a une communion parfaite, il y dichiaro le funzioni di Leon, la scrittura le funzioni della nostra diffusa, e di San Foglia, con la quale delle lupi, delle istituzioni, sono proprio conosco, se proprio stesse sono proprio parole, studiano sensi, e io ne ho citato le più difficili di tutti i popoli. E ho scritto il cuore di San Mitra, che se ho chiesto, e io qui a Pepe, e tutto il mondo che fa per me, ma se ne sono scritto, meglio che io per me, come lo dico. E di cui stava sciogliendo il ragazzo la semaine. Parce que rendre un culte à Dieu, ce n'est pas simplement assister à un moment communautaire, le dimanche matin, le dimanche après-midi, on en pense à tout. Toute notre vie est un culte. Nous sommes un culte. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, en politique, tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Soit que nous mangions, soit que nous dormions, soit que nous vivions, soit que nous dormions, c'est pour Christ et pour notre nom. C'est un culte. Le fait de penser d'une certaine manière, c'est un culte. Le fait d'effectuer mon travail d'une certaine façon, c'est vraiment un culte à Dieu. Si je le fais avec sérieux, avec amour, avec enthousiasme, parce que le Saint-Esprit me nourrit de ses vertus, eh bien c'est un culte. Et pour une femme, une maman à la maison, faire les tâches ménagères, c'est aussi un culte. Elle rend un culte en faisant tout ce qu'elle vous explique. Et vous et moi, nous rendons un culte en permanence. Et quand on a conscience de ça, il est évident que ça nous tient éveillés par rapport à ce distinct d'une déviance. Si le péché vient dans nos vies, dans nos pensées, dans nos cœurs, la semaine, à l'université, je le travail, je suis un chrétien, je rends culte. Et du coup, ça vous permet de dire, non, arrête. Ça, c'est dénoncé par les gens, je suis sûr que vous avez chez toi. Pourquoi? Parce qu'on a conscience que nous sommes dans un monde en culte. Et quand nous respirons, on dira, mais c'est ça, nous vivons ce monde bien, mais je vais le voir. Et c'est pas simplement pour nous dire, c'est pour nous, c'est pour nous. C'est pour ça que Paul va dire dans l'Épître aux Éphésiens que les anges sondent l'Église pour voir comprendre le plan de la rédemption. C'est-à-dire que nous sommes regardés par des anges fidèles, restés fidèles, qui essayent de comprendre, ils contemplent la gloire de Dieu dans les livres, mais ils contemplent la gloire de Dieu dans votre vie, là où vous êtes, à n'importe quelle heure de la journée, n'importe quelle chose de la semaine. Que ce soit au travail ou en vacances, les anges nous regardent et ils se disent un chrétien. Alors ils voient les autres hommes qui sont dans le monde, mais chrétien, qu'est-ce qu'ils voient dans la gloire de Dieu? Soit que nous avons compris qu'ils voient la gloire de Dieu, pour la même chose. Vous comprenez quel est le sens de tout ça? C'est pour ça qu'il est dit que dans le but principal du culte, tient tout entier dans cette parole du verset de Deutéronome, du verset 16 de chapitre 16 de Deutéronome, le premier verset qui est lu. On ne paraîtra pas dans l'Éternel, mais on vit. Et on ne peut pas, dans la nouvelle alliance, paraître devant l'Éternel sans demande, sans prière, sans avoir conscience que nous sommes dans le Dieu et c'est pour lui que nous sommes là. Alors pour moi, ça change tout. Ça fait véritablement un tout changer. Je lisais les propos du Dalai Lama, et il disait, ne vous y trompez pas, vous français, ne croyez pas que ce que je suis en train de vous communiquer soit quelque chose qui vous est donné comme ça. Il y a tout un travail, une prise de conscience, alors lui, s'il croit. Mais moi, chrétien, en lisant ce que j'ai raconté au Dalai Lama, je me suis dit, pourquoi chrétien, qu'est-ce que Dieu me dit? Il me dit la même chose. Je dis ce monsieur, ce mortel, mais il me dit cela par rapport à sa propre personne, par rapport à l'être de Dieu. C'est que je dois avoir une sorte de discipline, je dois être conscient de qui je suis, et de ce que je fais, de ce que je pense, de ce qui est bien, de ce qui est mal, etc. Donc la clé du culte s'appelle pour Dieu. Et dès qu'on se lève le matin, qu'on ouvre les yeux, qu'on se lève, on va avoir cette pensée, on est pour Dieu. Ma vie pour Dieu, je suis pour Dieu. la personne en fait de sexe. Il suffit qu'il fasse un seigneur, vous savez, oui, mais c'est vrai, c'est vrai, je me tiens. Quand Dieu nous est en compte quelque chose, là, je me mets dans la vie. Alors, merci mon frère. Alors, bravo pour l'éducation. Donc, si nous allons avec cette disposition fondamentale parcourir nos journées, notre vie, bien, toute infrastructure va changer. Et puis, si nous allons au culte avec cette pensée pour Dieu, eh bien, je ne rentrerai plus jamais déçu d'un culte si le sermon n'a pas été à ma convenance, si je n'ai rien reçu, si je n'ai pas trouvé le contact désiré avec des frères et des sœurs, ni senti entre parenthèses, au niveau de la présence du Seigneur, pas déçu. Parce que c'est mon Dieu qui a voulu. C'est pas pour moi, pas pour quelqu'un d'autre. Si par contre, j'ai pu apporter à Dieu ma louange et mon adoration par des chants et prières à mon offrande, mon culte aurait été conforme à son objectif principal. Participer. Alors, on a posé la question à John Nelson Darby, un des traducteurs de l'Université de Darby, un éminent chrétien de l'Union européenne. Alors, il a posé la question, qu'est-ce que le culte? Il a répondu, effectivement, c'est l'honneur et l'adoration rendus en commun à Dieu en vertu de ce qu'il est, de ce qu'il est pour ceux qui le rendent. Donc, en vertu de ce que Dieu est, mais aussi en vertu de ce que Dieu est pour ceux, pour les chrétiens qui vont vivre. Où Dieu est vraiment le Dieu des individus pour moi, et je progresse dans sa connaissance, ou alors, oui, peut-être, mais il a une moins importance dans ma vie. Et du coup, j'appelle toute la même attitude, et je n'apporterai pas les choses dans le cas de Dieu. Voire, je n'apporterai pas grand-chose. Alors pourquoi faut-il adorer Dieu? Il faut l'adorer simplement parce que on l'aime. Alors on raconte à Dieu, aimer avec passion, avoir un goût très vif pour quelqu'un, et admirer, aduler, déifier, vénérer, vouer un culte à. Vous rendez compte que le fait d'adorer, c'est toutes ces choses-là, aimer avec passion. Parce que nous sommes passionnément amoureux de notre Sauveur et de notre Créateur. Ce sont toutes ces choses que Dieu a développées dans le cœur de nos âmes, par la présence du Saint-Esprit qui va nous communiquer la personne de Dieu. Adorer, c'est aimer beaucoup, affectionner, apprécier, avoir un faible pour avoir. Qu'est-ce qu'on se voit quand on a un tel avoir un penchant pour être fou de. Être fou de. Paul va dire en Corinthiens chapitre 4, verset 10, nous sommes fous à cause de Christ. Il n'y a pas plus intelligent que l'apôtre Paul, pas plus conscient de ce qu'il faisait, de son ministère. Il dit, nous sommes fous. C'est-à-dire qu'on est prêt par la foi, on est prêt. Dieu est la préoccupation des préoccupations. C'est Dieu, mais tout ce que je fais, c'est pour Dieu. Et vous remarquerez avec quel contrôle de sa personne il exprime une telle passion. Parce que comme remarquable, parce que la passion, c'est la passion. On dit, bon, il est passionné, ça va lui passer. Mais la passion que Dieu développe, c'est la passion. La passion du Christ pour le monde, on appelle le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ la passion du Christ. Alors là, on va le contempler avec splendeur ce qu'est la passion que l'on veut faire de l'autre, la personne, et jamais homme n'a été plus conscient. Jésus est entièrement homme, entièrement Dieu, et jamais le Seigneur n'a été, personne n'a été comme le Seigneur aussi conscient de sa mission, passionné jusqu'à mourir pour nous, et en même temps parfaitement en contrôle. De toute sa vie, de toute son offrande pour Dieu, jusqu'au moment où il a pu dire lui-même, Père, je le remets, mon esprit est comme ça. Et nous avons vu ce dernier soupir de son cœur. C'est pour ça qu'il est dit en Marc chapitre 2, verset 30, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de ta pensée, de tout ce que tu penses. Mais c'est l'être entier. Et Dieu veut nous rendre passionnés de lui, tout en étant conscients de tout le reste de nous. Donc il ne veut pas faire de nous des fous, avec nous la raison. Il veut faire de nous des gens passionnés, parfaitement conscients de leur rôle de témoin dans la société, c'est-à-dire des hommes libres, parce qu'ils dépendent de Dieu. Alors, il y a notre vie, c'est quand on dépend de Dieu, c'est pas fait, non, c'est pas le cas. Et puis, adorer Dieu parce que Dieu est Dieu. L'existence de Dieu est la condition nécessaire et suffisante. C'est d'ailleurs ce que Dieu reproche à l'humanité, d'aller adorer les images des statues de bois de vache, etc. Premier chapitre des Éphésiens, au lieu d'adorer la créature, au lieu d'adorer le Christ. Et Dieu dit, mais c'est une folie. Non pas que ça manque à Dieu, mais simplement que ça entraîne l'homme dans une voie de perdition. Et c'est pour ça qu'il va dire, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Martin Luther, réformateur allemand, a dit la chose suivante, avoir un Dieu, c'est la mort. Et toujours John Milton Darby a dit, connaître Dieu ne suffit pas à un cœur qui est pénétré. Alors quand on aime une personne de sexe opposé, on est pénétré par quelqu'un. D'un autre sexe. Connaître Dieu ne suffira pas à un cœur qui est pénétré. Il éprouvera le besoin de faire monter la vie de main de son adoration et de sa reconnaissance pour toutes ses bénédictions. Vous savez, les gens amoureux ont parlé sans cesse de l'être qui plaît. Et on dit, mais cette personne aurait fait un défaut. Vous pouvez vous dire, là, je l'ai amoureux. S'il n'a pas cette phase où il ne trouve pas de défaut, c'est pas mal changé. Et alors, non pas que l'autre n'a pas de défaut, mais c'est un amour. Et puis ensuite, l'amour permet de se montrer, il permet de vivre ensemble joyeusement. C'est la même chose pour Dieu, connaître Dieu, c'est la sagesse. Et on jaillit de nos âmes avec une adoration et une reconnaissance pour toutes les bénédictions, pour ce qu'il est. Adorer Dieu, c'est savoir lui dire merci pour ce qu'il est. C'est pour ça que dans la version Sauveur, il y a été affiché tout à l'heure sur la Sauveur 10. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Alors moi, je vais passer de l'université. Car il était dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras ta culte. Durant que Dieu nous demande de l'adorer, nous n'avons pas d'attente de nous y sentir poussés pour nous faire. Et ça, c'est lié à notre éducation, courant de pensée qui parle de notre société moderne, au sentiment, le sentiment. Mais ça arrive à la Dieu quand on connaît Dieu, quand on aime Dieu, et là, c'est le sentiment. C'est disons simplement, Dieu est Dieu, c'est comme pour une année, je ne peux pas manquer de respect. Je ne peux pas m'adresser de n'importe quelle façon à mes parents qui m'ont donné la vie. C'est parti des choses. Et c'est pas par son oubli, à ce qu'elle a, que vous souterez tout le temps de vous. Et avec Dieu, c'est pareil. Oui, Dieu, on n'a pas besoin de sentir quelque chose. Un commentateur, et je termine par cela, a dit, On a forcément compris le culte comme reposant sur un sentiment qui vous saisit. Et moi, j'ai des tas de gens à la fin. Qui me disent, ah, oh, merci, c'est merveilleux pour votre parole. Alors, mais toi, je dis, mais qu'est-ce que ça a? Ah, oh, ça m'a fait du bien. Je dis, c'est sympa, mais franchement, j'attends des fois une réponse spirituelle. Moi, quand quelqu'un me parle, quand Dieu me parle, c'est arrivé d'être assisté à des rencontres, il était simplement comme nous, dans la vie du soir. Et puis, Dieu m'a parlé par mes frères. Et je vais voir mes frères si j'ai l'occasion, et je leur dis, merci, merci à Dieu pour le don qu'il t'a donné, parce que voilà, là, tout ceci, tout ceci, et voilà, je vais changer de mon être de travail. Vous voyez, c'est autre chose que simplement en pensant. Donc, on a forcément compris le culte que l'on prononce sur l'ascension qui nous saisit, mais il est de la plus haute importance que nous comprenions qu'il a sa racine, ce culte, cette adoration, dans un acte conscient d'un moment. Et alors là, ça ouvre le chemin à une vie à son Seigneur. Merci de votre attention.